Alors bonjour à chacun. Je vous souhaite la bienvenue à l'église de Mérin. Je suis vraiment contente de vous accueillir ici ce matin. C'est un petit peu nouveau pour moi, mais c'est dans le cadre de mon stage que j'ai pu faire cette semaine avec Philippe. Et voilà, c'est pas le but de faire une prestation devant vous, mais vraiment qu'on puisse vivre un culte tous ensemble ce matin. Et je crois vraiment que le Seigneur est content de nous accueillir ce matin et qu'il se réjouit du temps qu'on va pouvoir passer dans sa présence. Comme c'est les vacances, il n'y a pas de groupe spéciaux pour les enfants. S'il y a des enfants qui sont là et qui ont envie de descendre, il y a la garderie qui est ouverte, donc vous pouvez y aller sans autre. Mais voilà, il n'y a rien de spécial, donc si vous voulez rester, vous êtes les bienvenus aussi ici. Pour nous aider à entrer dans ce temps de culte, je voulais vous proposer quelques questions qui vont s'afficher. C'est juste des questions pour nous permettre de se poser avant de vraiment entrer dans ce temps de culte et de réfléchir à pourquoi est-ce qu'on est venu. Donc je vous propose d'y répondre dans votre tête où vous avez aussi des petits cahiers devant vous. Vous pouvez déjà écrire si vous avez envie d'écrire dedans. Il est vraiment pour vous ce cahier. C'est soit pour vos notes personnelles, soit sinon on le reprendra à la fin. Au milieu du culte, je vous expliquerai à quoi il sert vraiment. Mais si vous avez déjà envie de répondre à ces questions dans le cahier, vous sentez-vous libre. Donc, je vais juste vous laisser une, deux minutes pour vous poser devant Dieu et vous poser devant ces questions. Et après, on passera au temps de louange. Et je vais juste... je prierai après. Donc, je vous laisse réfléchir à ces questions. Donc, comme je vous ai dit, après la Sainte Cène, on pourra reprendre ce petit carnet que vous avez trouvé sur votre chaise dans le but de proposer quelques pistes concrètes concernant ce qui aura été vécu pendant le culte. Et maintenant, je vous propose juste qu'on puisse se placer devant Dieu pour vivre ce temps ensemble, et en commençant par la louange. Et je vais prier. Seigneur, nous venons devant toi ce matin avec tout ce qui nous habite et nous te prions de nous rejoindre. Tu connais nos cœurs et tu connais nos pensées, et nous voulons te rendre gloire et te louer ce matin. Je prie que ton Saint-Esprit vienne nous remplir et que nous puissions nous laisser transformer par toi durant ce culte. Ouvre nos cœurs et rends-nous attentifs à ce que tu veux nous dire, s'il te plaît. Dans le nom de Jésus. Amen.
Je vous propose de vous lever. Et nous allons chanter un premier chant pour nous laisser emporter par la parole.
On va vivre ce temps de louange tout autour du psaume 95 et je vais tout d'abord lire les deux premiers versets. Venez, crions de joie en l'honneur de l'Éternel, poussons des cris de joie en l'honneur du rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges et faisons retentir des chants en son honneur. L'Éternel est un grand Dieu, Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur.
Tu es Dieu.
car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Seigneur Jésus, comme on vient de le chanter, nous voulons te louer et t'adorer et nous soumettre à ta volonté chaque jour de notre vie. Et je te prie que tu viennes aussi inspirer Philippe qui va nous conduire dans ta parole, afin que tu puisses parler à nos cœurs encore ce matin et que nous apprenions à connaître ce que tu veux pour nous. Montre-nous comment te servir et comment te suivre. Amen.
Alors je vais lire dans Matthieu 5, les versets 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendrait-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que, de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste.
Bonjour à chacun, chacune. C'était un honneur de vivre une semaine un peu différente, un peu particulière, avec Aurélie, qui a effectué une bonne grosse semaine de stage découverte du service pastoral. Alors, si vous avez des questions sur ce qui fait une semaine pastorale normale, vous avez toujours le droit de venir me le demander, ou de venir toquer à la porte, ou... mais vous pouvez aussi aller demander à Aurélie, parce qu'elle a vu en direct live ce qui tissait une semaine, y compris une journée entière de pastoral frais à Vevey, mardi. Et puis l'objectif principal du stage, c'était qu'effectivement ce matin, Aurélie puisse nous conduire, présider ce culte, et je suis très heureux qu'elle le fasse et qu'elle le fasse bien. Elle conclura également tout à l'heure ce temps de culte et merci du bon accueil que vous faites à l'enfant de la maison, n'est-ce pas ? Mais qu'est-ce qu'on peut bien faire face à la crise ? Qu'est-ce qu'on peut faire quand la maladie, le découragement, le handicap ou le deuil frappent ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour la Syrie ? Ou pour la Corée du Nord ? Qu'est-ce qu'on peut faire face à l'injustice, au travail, à l'école, dans le corps du Christ ? Les événements de la vie courante, comme ceux qui passent à la télévision, mettent en évidence notre impuissance. Notre impuissance face au cours des choses. Les problèmes sont compliqués. Nous ne comprenons pas tout. Nous n'avons pas prise sur tout. Un océan de larmes ne suffirait pas pour pleurer la méchanceté des hommes et les souffrances qu'ils imposent les uns aux autres. En regardant notre monde, parfois à notre propre porte, nous pouvons nourrir un sentiment d'impuissance, nourrir un sentiment d'impuissance. Impuissants, le sommes-nous ? Eh bien, pas tout à fait. Pas tout à fait. Parce que je crois que si nous ne prions pas, eh bien, les choses seraient pires. Et je crois aussi que si Dieu ne freinait pas la méchanceté des hommes, les choses seraient mille fois pire. Nous pouvons avoir une influence autour de nous. Et c'est de cette influence dont le Seigneur Jésus parle dans le Sermon sur la montagne lorsqu'il affirme, comme nous l'avons lu tout à l'heure, que ses disciples sont sel et lumière. Sel et lumière. Dans le temps, du temps de Jésus, on formait des convois avec des centaines de dromadaires pour traverser le Sahara avec de grands blocs de sel. Les convois sont plus petits maintenant parce que ce sont plutôt des camions qui assurent le transport, mais le sel continue à traverser le désert. Le sel indispensable à la vie humaine. En Israël, autrefois, le sel provenait de la mer morte. On décollait des plaques qui étaient comme accrochées aux falaises, où on relevait des dépôts qui se formaient comme des tertres sur l'eau. Maintenant, il ne faut pas trop imaginer un sel blanc et pur comme vous allez en mettre sur vos frites ce midi. Il y a beaucoup d'autres sels minéraux qui se cristallisaient en même temps que le sel. Et à l'œil nu, on ne pouvait pas voir la différence entre le sel et les autres sels minéraux. Mais s'il était exposé à l'humidité, alors le sel de mauvaise qualité perdait ce qu'il contenait de vrai sel. Et l'on disait que le sel n'était plus bon, parce qu'il avait perdu ce qui faisait de lui le sel. Et à ce moment-là, quand le sel perdait sa vertu salante, il n'était même plus bon pour être un engrais pour les champs. On le jetait sur la route. Il servait à rien. Aujourd'hui, matériellement, ce n'est plus possible. Parce que vous avez dans votre assiette du chlorure de sodium à l'état pur. Mais à l'époque, tout le monde savait que le sel pouvait perdre sa qualité salante. Vous savez, ce sel qui donne du goût aux aliments, ce sel qui conserve les aliments, ce sel qui empêche les aliments de pourrir, ce sel qui est le signe de l'hospitalité, de l'amitié entre les hommes, eh bien ce sel peut perdre sa saveur. Et le mot que Jésus a utilisé pour dire « perdre sa saveur » signifie également devenir « sot », S-O-T. Et les rabbins, aujourd'hui encore, font allusion au sel pour illustrer la sagesse. Être sage, c'est être salé. Jésus ne nous demande pas, à nous chrétiens, d'être le sucre de la terre. Il ne nous demande pas d'être mou du genou. Il nous invite à être le sel de la terre. Perdre sa salinité, c'est s'émousser, c'est perdre son piquant, c'est perdre sa pertinence. L'apôtre Paul nous dit que nos paroles doivent être assaisonnées de sel, Colossiens 4, verset 6. Et si nous, chrétiens, nous perdions notre goût salé, comment ? Pas avec la pluie, hein ? Pas avec la neige. Mais en cessant ce que nous sommes, en arrêtant d'être ce que nous sommes, en baissant les bras, en abdiquant devant le cours des choses, en gommant nos spécificités, en cachant nos différences, en nous fondant dans la masse, en perdant notre identité. Vous savez ce que c'est, hein ? Nous avons tellement envie d'être accepté par le groupe. Nous avons tellement envie de parler comme le groupe, de faire comme le groupe, que tout ce qui pourrait nous démarquer, ça nous fait peur. On dit que c'est le problème des jeunes, ça. Se savoir différent, mais vouloir être pareil. Ah, c'est pas que le problème des jeunes, hein. Allons voir un peu dans le monde du travail, dans le monde associatif. Je pense que c'est difficile pour tout le monde. La pression du groupe est très forte. L'image de soi, le « quand dira-t-on ?» Mais si nous perdions notre identité, nous ne serions utiles à personne. si nous, chrétiens, nous perdons ce que nous sommes par définition, nous serons utiles à personne. Nous devons nous démarquer. Comment ? Ah, bien sûr qu'on peut tâcher de le faire sur le ton de la supériorité. Ah, les chrétiens, on connaît ça hein, parfois. Moi, je sais, vous, vous ne savez pas. Moi, je marche droit, vous, vous êtes tordus. Moi, j'ai la bonne religion, vous, vous avez la mauvaise. Mais si c'est ça que les gens comprennent chez nous, eh ben, ils vont nous traiter d'hypocrites et franchement, ils auront raison. Il faut simplement que nous restions nous-mêmes. Chrétiens, bien sûr, fiers de l'être. Humbles, puis droits dans ses bottes. Convaincus, mais sans agresser les autres. Clairs, mais sans rien imposer aux autres. Par exemple, moi, le dimanche matin, ce qui me passionne, c'est d'aller au culte. Moi, quand je regarde un coucher de soleil, eh ben, j'ai envie de remercier quelqu'un. Moi, quand je pense au sens de la vie, je comprends pas tout, mais je perçois qu'il y a autre chose. Il y a autre chose. Les gens autour de vous, ils parlent de leur vie, non ? Vos amis, ils parlent de leur vie. Vos collègues, ils parlent de leur vie. Les gens de votre famille, ils parlent de leur vie. Eh ben, parlez de la vôtre. Parlez de la vôtre. Dites ce qui en fait l'épaisseur, le sens, la profondeur. Dans notre passage, Jésus parle de sel et de lumière. Pourquoi est-ce qu'ils viennent ensemble, sel et lumière ? C'est comme la chèvre et le chou. On pourrait dire que tous les deux sont indispensables à la vie. Du sel, de la lumière. On pourrait dire que tous les deux empêchent les choses de pourrir. Le sel, la lumière. Mais le point qui les relie ensemble me semble être peut-être un peu plus subtil. Le sel peut perdre sa saveur. La lumière peut être cachée sous un seau. Dans les deux cas, ils ne remplissent plus leur rôle. Et là, c'est un grand gâchis. Pour renforcer l'idée que nous sommes la lumière du monde, Jésus utilise une image, une belle image. Il utilise l'image de la ville qui est bien visible, de la lampe qui est mise en évidence. Vous qui avez voyagé un peu, vous savez que dans le sud de la France, par exemple, on trouve ces villages pittoresques que l'on appelle les villages perchés. Ils sont au sommet d'une colline et donc plus faciles à défendre. Puis en plus, ça fait de magnifiques cartes postales. En Galilée, les villes, elles étaient plutôt construites sur le flanc des collines en Galilée. D'ailleurs, je pense qu'on pouvait voir ces villes à flanc de colline depuis le lieu où Jésus a donné son enseignement, le sermon sur la montagne. Des villes bien visibles. Des villes différentes des autres. Des villes situées sur une montagne, elles ne peuvent pas être cachées. D'ailleurs, ce n'est pas le but, sinon on ne les construirait pas sur la montagne. Notre but à nous, comme chrétiens, n'est pas de vivre caché, mais de vivre au grand jour, d'être des repères pour les autres. En parlant de repères pour les autres, je ne sais pas si vous avez déjà lu ce récit assez magnifique, je trouve, d'Alphonse Daudet, sur le phare des sanguinaires en Corse. Un récit qui est repris dans les lettres de Montmoulin. Un récit qui raconte comment les hommes ont construit un phare sur un rocher au large d'Ajaccio, dans l'archipel des îles sanguinaires, en pleine mer. Ce rocher-là, il n'était accessible que quelques jours par an, parce qu'il fallait pour accéder à ce rocher certains courants marins. Mais s'il y avait une tempête ce jour-là, alors il fallait attendre au moins 6 mois pour revenir sur le rocher où l'on construisait le phare. Construire le phare des sanguinaires allait sauver la vie à des centaines, peut-être des milliers de marins. Ce feu sur la mer était un feu salvateur. Vous êtes la lumière du monde, dit Jésus. Vous êtes la lumière du monde. Vous. Vous, petites gens. Si vous êtes fils et filles du royaume, alors vous êtes la lumière du monde. Et quand je lis ça, je me demande, excusez-moi, si Jésus n'a pas fait là une erreur théologique. Je m'explique. Hein. Parce que j'ai un problème, dans un premier temps, c'est que plusieurs textes bibliques disent que Dieu est la lumière du monde. Il y a toutes ces prophéties dans Ésaïe qui disent que quand le Messie viendra, il sera, lui, la lumière du monde. Et Jésus lui-même ne l'a dit, on ne pourrait pas plus clairement, « Je suis la lumière du monde ». Et les apôtres l'ont bien compris, en lui était la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. J'ai un problème. Dieu est lumière, Jésus est la lumière du monde, les apôtres disent que Jésus est la lumière du monde. Comment Jésus peut-il dire alors que c'est nous qui sommes la lumière du monde ? Bien, c'est que le reste de la Bible dit que nous sommes appelés à prolonger sa mission. Paul dit dans la synagogue d'Antioche, acte 13, verset 47, « Écoutez bien, le Seigneur a bien défini notre mission lorsqu'il a dit « Je t'ai établi pour que tu sois la lumière des nations et pour que tu portes le salut jusqu'au bout du monde. » Ce qui est absolument dingue, c'est que ce texte-là que Jésus cite, il est appliqué à Jésus dans un premier temps, et Jésus dit, hop, 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 ça ne s'arrêtera pas là. Vous prolongez ma mission. Vous êtes la lumière du monde. La mission du Messie que nous aimons est une mission qui est reprise par l'Église. Ce qu'il a commencé à faire, nous le poursuivons. Nous marchons dans ses pas. Nous répandons sa lumière. C'est maintenant nous qui sommes la lumière des nations. Philippiens 2, verset 15. Brillez comme des flambeaux dans le monde. Brillez. Et si nous sommes ses disciples, c'est ce que nous ferons. Brillez. Une lumière d'autant plus forte que nous ressemblerons au portrait des fils du royaume que nous trouvons dans les béatitudes. Jésus dit, c'est vous qui êtes la lumière du monde. À qui est-ce qu'il le dit ? Pas à une élite, pas à des gens parfaits, pas à des professionnels de l'Église, pas au clergé. Il le dit à des gens ordinaires, comme vous et moi. Il le dit à des paysans, à des pêcheurs, à des artisans, à des gens de la petite ville de Galilée. Et en même temps, des gens qui ne sont pas si ordinaires que ça. Parce que d'une part, tous ceux qui sont assemblés au moment où Jésus le dit, eh bien, ce sont des disciples de Jésus, ce sont des hommes et des femmes qui aiment le roi des rois. Et puis d'autre part, Jésus parle bien de ceux qui sont des fils et des filles du royaume, des hommes et des femmes qui vivent, qui tâchent de vivre les béatitudes, des gens simples, des gens humbles, des gens généreux, des gens qui essayent de répandre la paix autour d'eux, des hommes et des femmes qui ont faim et soif de justice, pas des gens parfaits, mais des hommes et des femmes pétris par les valeurs du royaume. Vous, petites gens de Galilée, leur dit Jésus. Vous qui voyez passer tous les jours des soldats romains, vous qui vivez en pays occupé, vous qui vous faites rançonner à l'entrée des villes par les collecteurs d'impôts, vous qui êtes gouvernés depuis la lointaine Jérusalem par des prêtres avides de pouvoir, vous qui apparemment comptez pour du beurre, vous les petits, vous les humbles, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Et je crois, mais je le dis en tremblant et modestement, je crois que Jésus nous dit ce matin, vous, les petites gens de Mérin, vous, les gens qui habitez ce canton, cette ville, vous qui n'avez rien d'exceptionnel, vous qui voyez se passer des choses horribles à la télé, vous qui peut-être avez l'impression de ne compter pour rien dans les affaires de ce monde, vous qu'on n'écoute pas, vous qu'on ne repère pas, vous les petits, les humbles, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Si vous vivez comme Jésus, si de vous quelque chose émane de sa personne, si quand on vous regarde, on se dit « purée, il y a quelque chose de Jésus chez lui, chez elle », alors c'est vous qui êtes la lumière du monde. J'arrive presque à la fin. Je trouve que le sermon sur la montagne renferme d'apparentes contradictions. Je vous en cite une. Au verset 16 du sermon sur la montagne en Matthieu 5, nous lisons « C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites aux autres. » Puis mon problème, c'est qu'au chapitre suivant, chapitre 6, versets 1 à 4, Jésus dit exactement le contraire. Il dit que quand on donne quelque chose aux pauvres, quand on prie, quand on jeûne, il faut que personne ne le sache. Ça ne doit pas se voir. Le seul qui doit y comprendre quelque chose, c'est le Père Céleste. Les autres doivent rien voir. Il y a du grain à moudre dans la Bible, Ça me donne à réfléchir, ça. Est-ce que nous sommes appelés à être visibles ou invisibles? Je pense que ça dépend des motivations. Là où les gens religieux du temps de Jésus cherchaient à montrer à tous leur piété, Jésus en appelle à la discrétion. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas là pour attirer l'attention sur nous. Même pas pour nous donner un exemple. Même pas pour faire honte aux mécréants. Même pas pour élever le niveau des autres. Pas du tout. Les chrétiens ne sont pas là pour ça. La piété se pratique devant Dieu avec discrétion. D'ailleurs, je pense que si les gens nous voient aller au culte, je ne suis pas convaincu qu'ils vont revoir leur opinion de nous à la hausse. Plutôt penser qu'on est un peu bizarre, ou même hypocrite, puisque c'est bien connu, toutes les grenouilles de bénitier sont des hypocrites. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Il ne s'agit pas là d'actes de piété. Il ne s'agit pas de venir à genoux à l'église. Il ne s'agit pas de s'infliger je ne sais quelle privation. Mais il s'agit là d'actes que le commun des mortels peut identifier comme étant bons. Tout bêtement, tout simplement, de l'honnêteté dans le travail. De l'honnêteté dans les études. La résistance à certaines pressions, la droiture dans les relations, des actes de compassion et de grâce, un engagement associatif, un engagement politique peut-être, des services rendus, la main tendue à des personnes seules ou affaiblies par la maladie ou éprouvées par des problèmes familiaux. Pas des actes accomplis pour impressionner les autres. Ça, c'est le monde. Ça, c'est le strass, les paillettes, le pouvoir. mais des actes accomplis pour leur valeur en soi, en fonction d'une certaine générosité de cœur. L'apôtre Pierre le dit de la manière suivante, 1 Pierre 2, verset 12. « Ayez une bonne conduite au milieu des païens. Ainsi, ils verront vos bonnes actions et loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. » Ce n'est pas automatique que nos bonnes actions poussent les gens à louer Dieu. Moi, je dirais qu'il faut un déclic. Il faut que Dieu intervienne dans la vie d'une personne d'une manière ou d'une autre. Et tout d'un coup, elle verra un lien entre ce que nous essayons d'être imparfaitement et ce que Dieu est en train de leur dire. Il y a une condition à cela, délicate. C'est que les gens sachent que c'est Dieu qui nous motive, que c'est Dieu qui nous inspire, que c'est sa grâce qui nous a touchés et que notre conduite n'est que la réponse de la reconnaissance. Vous savez, le fondement de la théologie chrétienne, c'est la grâce. Et en même temps, le fondement de l'éthique chrétienne, c'est la gratitude. Et les deux marchent ensemble. Comme nous avons été graciés, nous sommes reconnaissants. Nous ne leur aurons pas rabattu les oreilles avec des choses qu'ils n'étaient pas en mesure d'entendre, mais nous n'aurons pas passé sous silence notre identité de chrétien. Je conclus. Nous avons l'impression de n'avoir aucune prise sur le cours de ce monde. Nous nous disons que nous avons bien peu d'influence sur les événements, sur les circonstances. Mais quand Jésus dit que nous sommes sel et lumière pour le monde, il dit que nous avons une influence pour le bien qu'il ne faut pas sous-estimer. Voilà donc un défi que nous pouvons nous lancer, que je me lance. Ayons du goût. Ne perdons pas notre saveur. Brillons. Brillons fort. Et je crois que nous empêcherons bien des naufrages. Comme le phare des îles sanguinaires au large d'Ajaccio. Amen.
Juste après la Sainte Cène, on aura l'occasion de prendre quelques minutes pour réfléchir à comment briller, comment être ce sel là où Dieu nous envoie. Et avant de prendre ce temps de réflexion, je vous invite à prendre un temps de cène. Je voulais juste vous raconter un petit témoignage pour entrer dans ce temps de cène. En fait, c'était pendant mon voyage en Israël en septembre. J'ai eu l'occasion de partir visiter un peu Israël. Et on a fait une croisière sur le lac de Galilée. Et pendant qu'on était sur ce bateau, je regardais les côtes et je me disais, waouh, c'est là que Dieu il est passé avec tous ses disciples. Et ça devait être juste trop bien. Et je l'imaginais en train de rigoler avec ses disciples, en train de manger avec eux. Et j'imaginais ses disciples en train de l'écouter. Enfin, ça devait être juste exceptionnel. Et j'ai commencé à prier et puis j'ai dit, mais Seigneur, ça devait être vraiment cool d'être avec toi comme ça, tous les jours sur ces côtes. En plus, c'était trop beau. Enfin, bref. Et à ce moment-là, j'ai vraiment l'impression que Dieu m'a dit, mais je suis avec toi tout le temps. Et je crois vraiment qu'il est avec nous tous les jours. Et ouais, qu'il nous accompagne comme il accompagne ses disciples. Et que oui, ses disciples ont eu la chance de le côtoyer. Mais Jésus, il nous lâche pas et il veut aussi rire, manger avec nous, discuter avec nous. Ouais, je crois qu'il veut vraiment marcher avec nous dans notre vie de foi. Et que même s'il ne nous a pas promis une vie facile, il a promis d'être avec nous tous les jours. Et en prenant la scène, qu'on puisse vraiment se réjouir que le Seigneur nous a rachetés, qu'il est mort à la croix pour pardonner nos péchés, et qu'on puisse prendre ce repas ensemble aussi en se rappelant qu'on est les enfants du Dieu très haut. Et en repensant au message que Philippe vient de nous apporter, qu'on puisse aussi prendre cette scène peut-être comme un engagement devant Dieu, un engagement à le suivre et à être ce sel plein de saveur et cette lumière qui brille devant les hommes. Et avant ça, je vous propose juste de chanter le chant « Sauveur du monde » et qu'on puisse aussi pendant ce chant se laisser imprégner des paroles et réaliser ce que Jésus a fait pour nous à la croix et lui rendre gloire pour ça. Et pendant le temps de scène, je vous invite, si vous aurez envie de prier, sentez vraiment vous libre. J'invite juste ma petite équipe à venir distribuer, s'il vous plaît.
Seigneur, je te demande que je sois motivée dans mes actions par cette parole « À qui veux-tu plaire ?» et que par ton esprit, je dis ça, nous discernions, Seigneur, si nous voulons vraiment t'honorer. Et qu'ainsi ça nous donne, ça nous fait discerner ta volonté par ton Saint-Esprit.
Au nom de Jésus. Amen. Oui, Seigneur, nous pouvons te reconnaître que tu as fait briller ta lumière sur nos pays depuis très longtemps. Et Seigneur, c'est vrai que voyons notre responsabilité de continuer à faire briller cette lumière autour de nous et sur notre pays pour tout le monde. Amen.
Seigneur, il arrive aussi que parfois cette lumière vacille parce qu'on a des coups durs, parce qu'on est fatigué, parce qu'on est chargé, parce qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive. On aimerait briller, mais les coups sont trop durs et je te prie pour ces personnes qui traversent des orages, des tempêtes, qui sont des lumières, mais qui sont des lumières qui sont fatiguées et qui vacillent. Seigneur, que ta présence puisse se manifester. Seigneur, merci de leur offrir ce cadeau de ta vie vivifiante, de ta présence bienfaisante. Au nom de Jésus.
Je vois, Seigneur, ta parole nous dit aussi que tu n'éteins pas les lumignons qui fument. Effectivement, tous ceux qui ont de la peine à être lumière au cœur de ce monde. Seigneur Jésus, merci parce que tu es toujours celui qui relève, qui redresse, qui encourage. Et merci pour cela, pour ta présence en nous, par ton Esprit Saint.
Seigneur, aide-nous à voir qui nous sommes à tes yeux, quelle personne nous sommes chacun différents l'un de l'autre, afin que connaissant qui nous sommes, nous puissions avoir la joie d'être ce que nous sommes au milieu de notre famille, de nos collègues du travail, de nos amis. Seigneur, que ton esprit nous accompagne dans cette démarche.
Seigneur, je te remercie pour ces personnes qui ont été celles, une pierre, une magie, qui ont permis à ce que je puisse te faire. Et puis merci, j'ai l'âge très très à toutes ces personnes de l'église, merci à toutes les personnes qui ont été sur leur chemin. Merci.
Oui, Seigneur Jésus, je veux te remercier aussi pour la famille qu'on a et parce que on peut se soutenir les uns les autres dans les choses qu'on vit et que tu es là pour nous accompagner et pour nous permettre de s'épauler les uns les autres. Et j'aimerais vraiment te remercier pour ton œuvre à la croix qui nous rappelle que sans toi on n'est rien et qui nous révèle le grand Dieu d'amour que tu es. Alors merci pour cette relation qu'on peut avoir avec toi. Amen. Alors, on arrive gentiment à la fin du culte. Et avant qu'on reparte chez nous, je vous propose de prendre les petits cahiers que vous avez trouvés sur votre chaise, si vous avez envie. Ce n'est pas une obligation, c'est une proposition. C'est parce que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup écrire et qui aime beaucoup garder des traces de ce que je vis. Donc, c'est une ouverture pour que vous puissiez le vivre aussi ce matin ou l'expérimenter. Et en fait, le but, c'est que vous puissiez... Enfin, qu'on puisse tous ensemble se replonger dans ce qu'on a entendu ce matin et qu'on puisse réfléchir concrètement dans notre vie qu'est-ce qu'on peut en faire, comment est-ce qu'on peut être ce sel, cette lumière, et qu'on puisse peut-être passer un moment de cœur à cœur avec Dieu et lui demander un peu quels pourraient être nos objectifs pour ces prochains temps par rapport à ça et peut-être l'écrire en quelques points ou... Voilà, pour pouvoir s'en souvenir, pour pouvoir les reprendre dans quelques jours. Des fois, c'est pas facile de se souvenir des messages qu'on a entendus. En tout cas, pour ma part, c'est pas toujours évident. Mais de le noter, ça me permet de m'y repencher et puis de m'y repencher aussi avec Dieu et dans la prière. Donc je vais juste laisser quelques minutes si vous avez envie d'écrire, envie de réfléchir à ça. Et après, on passera directement au temps d'offrande avec le chant « Béni soit ton nom ».
ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de ton nom.
Je vais juste prier pour remettre l'offrande. Seigneur, nous te remercions pour cette offrande et nous te prions qu'elle puisse servir à l'avancement de ton royaume. Amen. On va passer maintenant à un temps d'annonce. Je propose à Michel de nous rejoindre, il est déjà là.
Voilà, et avant d'aller plus avant dans les annonces, je passe la parole, je redonne la parole à Philippe.
Simplement pour vous dire, plusieurs d'entre vous sont au courant. Donc Nino Locercio est hospitalisé depuis 3 semaines suite à un œdème pulmonaire qui a abouti à un diagnostic de tuberculose. Il n'est plus contagieux. Il n'est plus contagieux. Et puis ces derniers jours, sa situation de santé avec une chute et une forte fièvre s'est passablement dégradée. Il y a eu bien des inquiétudes à son égard, bien des examens complémentaires ont été faits et a priori ne laisse entrevoir rien de grave sinon une sorte de surinfection pulmonaire. Et puis ce matin, Brigitte m'a fait un petit mot en me demandant de vous dire que les nouvelles étaient meilleures ce matin, que Nino avait repris des couleurs ce matin. Et tous deux se recommandent à nos prières, ce que j'aimerais, si je peux, juste faire. Et puis, vous signalez aussi que nous avons une liste de prières pour des sujets qui nous concernent les uns les autres. Si vous souhaitez être inscrit sur cette liste de prières, n'hésitez pas à me faire un petit mail ou à me le dire. Et puis, je vous inclurai dans cette liste de prières. On va prier pour Nino et Brigitte. Notre Dieu, notre Père. te remercions d'avoir préservé la vie de Nino, te remercions pour la qualité des soins qu'il reçoit, et nous te prions dans ta bonté de bien vouloir le rétablir, le restaurer, le guérir. Merci de veiller sur lui, de le visiter en cette journée. Et puis nous pensons à Brigitte aussi en te la recommandant, en te demandant, Seigneur, de renouveler ses forces et de la soutenir dans ces temps difficiles. Nous te prions ensemble dans le nom de Jésus. Amen.
Voilà, alors cette semaine, il y a une rencontre du Conseil qui est prévue le 15 février. Et vous signalez que le mémo, c'est-à-dire le programme de l'Église, se trouve, si vous le désirez, à la sortie sur votre gauche, dans un présentoir. C'est une feuille qui, pour cette édition, est de couleur pistache. C'est un vert pâle, pistache, très nettement. Voilà, samedi 24 février, Free Time, le groupe inter-église de notre fédération pour cette région du canton de Genève, organise une conférence, l'origine de la Bible, avec Anthony Perrault, un doctorant en sciences historiques à la Sorbonne à Paris, samedi 24 février, à l'église évangélique de la Pélisserie. Et pour soutenir cette action, vous pouvez participer à la collation. Il y a une feuille affichée sur le flip chart, le présentoir qui est à gauche en sortant. Mardi 27 février, Fil d'Argent, le groupe des aînés reçoit Henri Bachet pour ce thème particulier, les changements culturels, sociétaux actuels, comment vivre heureux en tant que parents et grands-parents. Ça, c'est ambitieux. Hein. Mais on est sûr qu'Henri arrivera à relever le défi. Vendredi 16 mars, c'est un peu plus en avant, on aura l'organisation ici, la présentation de spectacle L'autre Dieu, d'après le livre de Marion Muller-Collard. Vendredi 16 mars, 20h15, une bonne occasion d'inviter aussi vos amis. Est-ce qu'il y a déjà des flyers disponibles? Oui. Et puis, nous sommes maintenant dans ce processus d'élection du Conseil d'Église, du nouveau Conseil d'Église, une élection qui aura lieu en juin 2018. Nous sommes maintenant dans la phase où les membres de l'Église sont consultés. Vous avez reçu un courrier ou un email avec des explications. Vous pouvez vous déterminer, proposer des personnes. C'est à remplir d'ici au dimanche 4 mars. C'est dans pas longtemps, le dimanche 4 mars. Voilà. Il y a une boîte consultation du Conseil dans laquelle vous pouvez glisser la feuille qui vous a été communiquée. Vous pouvez la retourner par email également. Et c'est très utile pour le groupe de renouvellement du Conseil d'avoir vos avis, vos opinions. Et ça l'aide dans son discernement. Et puis, la garderie La Framboise, qui est la garderie que nous hébergeons, que nous accueillons ici dans nos locaux, c'est une association pour sa vie. Elle a besoin de membres et particulièrement de membres de l'Église parce que c'est une galerie qui est indépendante, mais nous souhaitons garder ce lien fort entre notre communauté et cette association, éviter qu'elle devienne étrangère à notre communauté. C'est pour ça que nous recherchons des membres qui s'y inscrivent, qui pourraient déjà être présent là à l'Assemblée générale du 15 mars, mais également un trésorier qui s'occupe des comptes, des salaires, des écolages, etc. Vous pouvez contacter Catherine Meyer ou Harry, également Anne-Claude Semon ou Claude Parnigoni, si vous êtes intéressé, nous l'espérons, par cet engagement pour le bon fonctionnement de cette garderie qui se réunit ici dans nos locaux. Et puis voilà, au fond de la salle, il y a toujours une boîte dans laquelle vous pouvez déposer des timbres. Et Denise Albisser, qui a ce ministère à cœur de la mission de la lèpre, nous remercie pour les timbres qui sont déposés dans cette boîte. C'est une boîte sur laquelle c'est marqué Graceland, pays de la grâce. Enfin, c'est... Merci.
Jésus, après être ressuscité, est apparu à ses disciples et il leur a dit en Jean 20, 19 à 21, « Que la paix soit avec vous. » Et tout en disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur. « Que la paix soit avec vous, leur dit-il de nouveau. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Allez dans la paix du Seigneur et bon dimanche à chacun.